il faut, je dirais, mettre l'accent d'église, non?
Oh ben oui, ça se situe.
Je reviendrai à ce qu'on se racontait.
Oui, oui.
Comment est-ce qu'une vocation de philosophe peut naître dans le système soviétique depuis, bon, de 45 à aujourd'hui, enfin, c'est vers les années 50, vous aviez 20 ans, 1950. Comment naît une vocation de philosophe dans le système stalinien?
La raison est simple. C'est la passion qui mène à cela, c'est se reprendre. Parce que quand tu te réveilles, tu découvres que tu existes déjà, existant entre guillemets, dans plusieurs réflexions, dans le miroir, dans les miroirs sociaux. Tu es là, c'est toi, mais c'est pas toi. Et la passion est de mettre l'empreinte de toi sur ta pensée, sur ton acte, sur ton existence. Et c'était d'ailleurs une tentative, une passion qui se trouvait justement dans ce champ linguistique qui était détruit par le totalitarisme, qui agit, et je reprends ce que je disais avant, qui agit en s'introduisant entre le décalage qu'il y a entre veilleté de la pensée,
pardon,
veilleté de la pensée, veilleté de l'existence, et l'existence est pensée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intervalle entre les deux. Moi, je désire penser. Deuxième chose, je pense. Ou j'ai la velléité de exister. C'est une chose. C'est quelque, je dirais que c'est une voix qui frappe, si une voix peut frapper, frappe à la porte de l'être. C'est déjà, je dirais, un demi-existence qui peut toujours s'avorter. Ou entrer dans un cycle infernal de l'éternité de la répétition, comme une expérience, par exemple, dont on ne tire jamais une leçon. Une pensée qui n'a jamais trouvé le mot pour se dire. Un sentiment qui n'a jamais pris une forme, parce que c'est seulement à travers la forme que nous venons en l'existence. C'est eidos grec. Aussi moi, je suis en forme, si je suis. Et alors comment faire naître cette forme, cet eidos? Alors tout le parcours, toute la distance qui sépare les deux, la velléité d'une chose et la chose réalisée, coulée dans une forme, c'est une aventure à parcourir cette distance, et c'est justement c'est à la porte de cette aventure que le totalitarisme, qui est très spécifique et très singulier, te guette. Parce que c'est déjà la distance avant que tu commences ton aventure, qui est toujours périlleuse. L'être est une aventure, un drame. On n'a pas l'être comme on aurait une pierre qu'on mettrait dans une poche. On ne peut pas posséder l'être. Alors, cet espace, cette distance est remplie par les signes réactionnels. Et toi, dois, si tu veux avoir la vie sociale et l'existence juridique reconnue dans ta société, tu dois donner la reconnaissance. Tu dois donner le signe du signe de toi. Par exemple, il y a déjà ta pensée qui est déjà formulée. Par exemple, le soldat en Afghanistan, qui a des expériences de soldat, non? S'il cherche à comprendre son expérience, ou vivre son expérience dans sa réalité, pas seulement dans une fiction sentimentale, mais dans la réalité de l'expérience. Il doit le faire trouvant déjà son image existante qui dit « soldat internationaliste ». Et dans cette image, c'est impossible de voir clair dans son expérience. On est déjà mort dans ces mots, dans ce qui est toi, mais donné avant ton expérience unique, où le moi et l'individu est indélible, ou devrait être indélible. Mais il veut prendre place dans cet espace, mais la place déjà occupée par lui-même, déjà connue, on sait qu'est-ce qu'il éprouve. C'est le signe de son sentiment est donné. Et il se heurte à ce signe. Et vous savez, les Grecs imaginaient une torture où le bœuf de bronze, avec à l'intérieur un homme, brûlait. Oui, on faisait du feu dessous, et on faisait brûler un homme qui éprouvait des affreuses tortures avant de brûler vif. Mais ils n'ont jamais imaginé qu'on peut brûler quelqu'un, qu'on mette du feu, quelqu'un qui est bronze de lui-même, mettre quelqu'un dans un statut de bronze de lui-même, et c'est vraiment en feu au-dessous dans ce cas, pas le bœuf, c'est toi-même. Alors les statues de ce genre existent par millions et millions d'exemplaires pour nos sentiments, pour nos états d'âme, pour nos pensées, pour notre réalité. On se met debout, on essaie de se mettre debout, et déjà il y a des statues de ce genre dressées autour de toi, tout l'espace est rempli, et par cela que les sources même, les conditions de la possibilité que la pensée se forme, que le sentiment se réalise tel quel, se reconnaît, les conditions même sont minées d'avance, et c'est une oppression beaucoup plus dure et tout à fait singulière, beaucoup plus dure que l'oppression ou l'interdiction classique de la pensée, de la parole, etc. Et vous voyez, c'est dans cette tentative que se place la philosophie. Alors je peux dire que c'est que j'étais heureux. J'ai eu de la chance de vivre dans la société totalitaire, parce que elle, si je résistais, si j'avais une réaction contre, me mettait sur la bonne voie de la vraie philosophie. Parce que la vraie philosophie est un élément de cet déblayage de l'espace, de écrasement ou de démorceler les statues, détruire les statues déjà existantes, briser l'image de toi-même déjà existant. Pourquoi? Pour la dignité, pour l'honneur. C'est ça, parce que déshonorant, qu'est-ce que c'est déshonorant chez l'homme? C'est être en pantant d'autrui et ne jamais donner la forme de son eidos à sa mort. C'est toujours comme dans l'inferno, c'est comme mourir sans mourir. C'est ça l'enfer. On marche le même morceau sans jamais arriver à engloutir, sans jamais accomplir l'acte de manger. Dans le cadre de la mort, ce n'est jamais mourir. C'est toujours être en train de mourir et jamais mourir. Mais c'est, je dirais, par exemple, je parle les sentiments humains, oui. En même temps, je peux tout de suite donner un mot spécial, philosophique à cela. Je dis que quand, pour, par exemple, on peut introduire dans la philosophie le concept de retour éternel, qui pourrait être un concept abstrait, oui. C'est seulement un concept, un mot, qui permet, pour la première fois, et définitivement jusqu'à la fin, vivre ce qu'on vit. Si on donne le mot retour éternel à ce que je décris déjà, par ce mot, on peut continuer l'expérience de cela au-delà des possibilités empiriques de l'expérience et du hasard empirique des expériences, c'est-à-dire des rencontres avec les objets de la pensée. Et c'est toujours le hasard, la rencontre de la pensée avec son objet. Ici, en créant un gris conceptuel, on crée un texte en se reportant auquel on peut continuer l'expérience, la continuer au-delà des possibilités empiriques. Dans ce cas, alors, les concepts sont comme les choses qui donnent naissance, qui créent matériellement, réellement, qui créent mes états, mon expérience. C'est-à-dire, si on a une formation qui est toujours une formation autonome, libre, qui est l'expression de la liberté humaine, il n'y a jamais de raison pour un concept dans ce sens-là, tel que je disais. Alors, c'est après le concept que vient la raison. Après le concept. Parce que le concept ouvre un champ où tu peux éprouver ces sentiments-là et pas autre, ces pensées-là et pas autre. Il y a l'éventualité des pensées, possibilité des pensées, des sentiments, des visions, des expériences qu'on éprouve dans la vie. On est autre après concept.
Si on revient au totalitarisme, à part l'individu exceptionnel qui est philosophe et qui détruit tout seul la statue de bronze, l'équivalent du bœuf en bronze dans lequel on l'a mis. Sur l'ensemble des gens, quel effet a le totalitarisme? Ils sont tous dans la statue de bronze, ils deviennent fous, quoi.
Ah oui. Ils sont, je dirais, les gens, s'ils n'accomplissent pas cet effort dont je parlais, et on l'accomplit sans être philosophe, on l'accomplit. Bon, je disais que philosophie, la première philosophie fait partie de l'effort général de l'homme de réaliser ou garder sa dignité, son honneur, etc., etc.
C'est cet effort que chacun devrait faire.
Ah oui, voilà. Voilà, c'est un effort que chacun devrait faire parce que ça correspond aussi à comment est le monde. Le monde n'est pas fait une fois. Il fait ou se refait à chaque moment. C'est déjà la théorie de Descartes, et je dirais que c'est aussi la théorie ou la philosophie secrète de Platon, que c'est la théorie de la création continue. Qui, alors, rien n'est donné à l'homme. Tout ce qui existe ne m'est pas donné. L'existence est quelque chose qui roule sur la crête du discontinu de l'effort humain. Sur la crête de la vague de l'effort que ça continue. S'il n'y a pas de cela, si on se fatigue, il y a, tout tombe, les civilisations tombent. Par exemple, à un moment, je peux dire que l'aventure grecque était l'aventure parce que ça détachait sur le fond massif de la réalité historique qui est la réalité de l'inertie. C'était une exception. C'est pas du tout une étape dans une évolution. C'est un tableau tout à fait faux.
On dit le miracle grec.
Oui, le miracle, mais on dit cela très souvent dans le sens que ce miracle a ouvert une route de l'évolution. Mais c'est pas ainsi, c'était une exception qui se tenait seulement sur la crête de la vague de l'effort des Grecs, être grec. Et ils se sont fatigués. Et la civilisation est disparue. L'effort n'y était plus. L'effort accompli par les individus. De nombreux individus faisant le même effort, qui était, je dirais, l'effort de donner, braver la mort, donner son image indélébile, constante.
Indélébile.
Indélébile, oui, indélébile et constante, qui, n'étant pas matériel, mais étant dans la mémoire culturelle et sociale, ne sera pas entamé par les mésaventures de ta vie, par déchéance physique. Et comme ça, on se distingue dans la mort. Le contraire est, comme je dis que les gens sont fous, oui, c'est la réplique que vous m'avez.
Oui, donc, est-ce que le totalitarisme rend fou?
Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, j'appelle ça le troisième état et je m'explique maintenant. Non, généralement, je dirais, j'ai commencé par cela avant cette dégression que je fais sur l'aventure et sur l'effort, parce que j'étais emporté par le mot effort. En cherchant dans l'expression orale la vérité, ce qui est une des tâches du philosophe, chercher aussi dans le dialogue, dans l'oral. Je dirais que les gens sous le totalitarisme sont les gens de demi-naissance, de demi-naissance. C'est l'enfer, dans le sens classique de ce mot. C'est toujours la pensée, non-pensée. La pensée, commencer, c'est-à-dire velléité, désir, mot. Notre monde grouille des gens qui ne sont pas nés, qui voulaient la naissance, chercher la naissance. Ils sont dans un état de la conscience que je définirais troisième état, qui n'est pas folie dans le sens médical ou exact de ces mots, mais dans le sens métaphorique, c'est de la folie, mais de la folie spécifique, qui est ni vie, ni mort, ni sommeil, ni réveil. C'est troisième état pour lequel et le chimisme aussi physique de l'homme change. Et ça peut être irréversible. C'est ça le danger. Je dirais ainsi que pour, normalement, dans l'homme, par exemple, le cœur a une fonction. Ouais. Le poumon a une fonction. Mais s'il y a une mutation dans le sens génétique de ce mot, et il y a eu mutation, dans le sens biologique de ce terme, sur la crête de la Première Guerre mondiale et de la Révolution d'octobre, les gens ont muté. Alors s'il y a la mutation, la vie quand même continue, parce qu'on a le même langage qu'auparavant aussi, et la vie continue, disons. Et elle se refait. Elle se refait et par exemple, le talon prend sur lui la fonction du cœur. Oui. Ou des poumons. Il y a le déplacement de chimisme, d'échange de matière vivante qui s'arrange avec la condition de mutation. Et vous verrez que derrière les réactions classiques humaines, qu'on reconnaît toujours par les noms, par les signes, qu'on colle à ces réactions-là, à cet état d'âme, il y a derrière un autre psychisme, un autre chimisme. J'ai mis, il y a les déplacements qui se cristallisent et peuvent devenir irréversibles. C'est-à-dire donner un type d'homme tout à fait autre, nouveau dans ce sens, différent du classique, où vous ne saurez jamais dire si il est courageux ou il est lâche. Parce que les lieux du courage, de lâcheté, se sont déplacés. Pour continuer à vivre, on s'est créé un nouvel chimisme, de nouveaux, nouvelles organes, je dirais. Et c'est ainsi que il y a une telle perte de bon sens chez les gens qui sont médicalement bien portants. Ils ne sont pas fous, dans le sens médical de ce mot. Mais c'est, tu vois devant toi la folie systématisée, qui est différente. Comme par exemple le mensonge, qui est un mensonge, une qualité humaine. Oui, c'est une chose. Mais la même chose, faite système, est une chose tout à fait différente. Et on se gourre toujours sur le fait que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est les mêmes signes désignent cela, le mensonge. Bon, on dit, bon, tout le monde est mensonger. Par exemple, tous les politiciens sont mensongers. Oui, on peut dire. Bon, la politique, c'est le royaume du mensonge, parce que le mensonge est un des instruments peut-être le plus efficace de l'art du possible, ce qui est la politique. Oui. On réalise ses buts à travers par ses moyens aussi. Bon, c'est pas le seul moyen. Mais écoutez, le mensonge totalitaire, c'est pas le même mensonge. Ça suppose que ceci s'est systématisé, suppose d'autres sujets, d'autres épaisseurs de la vie. Et c'est l'épaisseur de la vie qu'on n'éprouve que de l'intérieur qui importe. Alors, on est dans une gélatine, dans un magma sans membrane, sans structure, qui serait comme deux êtres étanches séparant un domaine de l'autre, et par exemple l'action mauvaise ne passerait pas facilement à travers cela comme le couteau passe le beurre. Mais chez nous, n'importe quelle stupidité, n'importe quelle folie passe par toutes les molécules sociales, parce que ces molécules-là sont les molécules de la gélatine.
Mais là, il y a quand même des gens qui ont échappé. Le mensonge totalitaire, des individus y ont échappé, vous sans doute, d'autres, des individus. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a là? Aujourd'hui, on peut avoir l'impression, vu d'ici en Occident, que les peuples entiers, tout d'un coup, en sortent et y échappent. Alors, le mensonge totalitaire, c'est pas grand-chose.
Bon, il y a une correction à apporter à cela. Quand je comprends qu'on puisse avoir cette impression des événements qui se produisent maintenant chez nous et ailleurs, c'est-à-dire dans le domaine qu'on définit vaguement l'Est. C'est fausse, cette impression. La raison est simple. Ce que je disais auparavant équivaut à dire que, quand je parlais d'autres chimismes, ça et ça, c'est sortir de la vie et vivre sans vie comme les images, vivre dans un monde de la mort, sans être physiquement mort. C'est pour cela que j'emploie l'expression troisième état, ni vie, ni mort, ni éveil, ni sommeil. Et il n'est pas facile, mais peut-être même impossible de revenir après avoir longtemps vécu dans le monde de l'autre tombe, revenir à la vie, c'est problèmes difficiles. On a de la peine, presque physique, à faire ça. Ça te fait mal, affreusement mal, comme le sang qui se remet à circuler. Alors tu peux même réagir en te disant que non, je continue à être assis, que mes jambes s'ankylosent encore plus, mais non, pas cette souffrance. Vous savez très bien que l'homme, naturellement, est paresseux et craintif. Il a deux choses qui verrouillent la porte qui mène vers l'être. C'est lui-même toi. Il a l'espoir, crainte et paresse, qui sont pour les qualités normales de l'homme, les qualités courantes. Et l'homme s'est fait aussi contre soi-même, contre ces qualités de ce genre-là, contre la paresse, contre la crainte et contre l'espoir. Parce que l'espoir, vous savez, est de la paille devant ton nez, et comme un âne de la parabole connue, tu cherches toujours à atteindre la paille, mais tu te bouges avec, et ça s'éloigne au fur et à mesure de ton propre mouvement. Je parle espoir dans le sens comme c'est normal chez nous. Chez nous, vous savez, la vie que je définis que la vie non faite, la vie des états de naissance avortés. Alors cette vie est tenue toujours par l'espérance, par l'espoir, qui est la croyance qu'on peut indéfiniment réparer une chose, corriger, en trouvant un mot juste, à un moment juste et à un endroit juste. Mais c'est jamais l'endroit, c'est jamais le moment, et c'est jamais le mot. Et c'est jamais le mot. Au lieu de cela, on faisait ça, beaucoup de gens, les héros, disons, les aventuriers européens faisaient ça. S'il y a une fissure qui est apparue dans ta maison, répare pas. Sors et construis-en une nouvelle, une autre. Ta femme est née, tu crois que c'est toujours un malentendu qui est corrigible?
Tu n'as pas bien compris l'exemple de la femme.
Oui, parce que je n'ai pas fini l'exemple. Mais j'ai fait des crochets qui peuvent avoir à patienter. On croit toujours que c'est quelque chose qui ne marche pas entre moi et ma bien-aimée. Et Dieu a un malentendu, elle a mal compris quelque chose. Elle a mal entendu, on a dit du mauvaise humeur, rumeur. Alors, si je trouve les mots, vraiment, j'explique bien, alors ça se remettra. On rêvera. Mais pourquoi? On n'a jamais vu ça. Et pourquoi? Il y a peut-être des lois qui disent ça. Et vous avez entrepris sur l'exemple de la femme, de l'amour. Et quel est le rapport d'un soviétique avec le pouvoir toujours secret, mystérieux, qui l'accusait faussement, toujours, sans le faute réel, et on se croyait toujours innocent, et on courait toute sa vie, et des millions de gens. Mais moi, je suis innocent. Écoutez, donnez-moi une possibilité à un autre endroit, ayant tous les mots que je possède, à un bon moment, étant recueilli, je trouverai les mots qui prouveraient à vous que je suis innocent, que je suis un honnête communiste, etc., etc. Alors vous voyez que la structure qui est très, ça paraît très simple dans l'exemple ordinaire qui est l'amour, le rapport avec une femme, et qui est l'autre réalité qui est politique, à qui on emploie toujours, à l'analyse de laquelle on emploie toujours des concepts très 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 compliqués, très sérieux, etc. Mais non, écoutez, c'est la même chose, c'est les mêmes coureurs de Dante qui courent toujours en étant innocents, mais c'est-à-dire il faut rompre les quoi la, le lien que tu lis à quelqu'un, quelques points omniscient, juste, au mieux juste, disons, etc., etc., tu dois te disculper et réparer un malentendu. Mais l'histoire soviétique est pleine de malentendus dans ce sens, dans ce cas, malentendu entre guillemets. Qu'est-ce que c'est un malentendu? Au lieu de renverser et prendre cela comme une réalité, derrière laquelle il y a des lois, on court cette course folle de l'espoir. C'est pour cela que dans ce sens j'appuie le mot espoir, et dans ce sens je me érige contre cette valeur humaine qu'on appelle espoir. Alors espoir, paresse et la crainte.
Dans quoi vivent aujourd'hui les gens qui vivent de l'autre côté de ce qu'on n'appelle plus déjà le rideau de fer dans les pays de l'Est? Où en sont des citoyens de l'Union soviétique aujourd'hui, géorgiens, baltes, arméniens ou russes, par rapport à la crainte, à la peur et à la paresse?
Ils sont au réveil, qui peut très bien ne pas se produire si ils ne trouvent pas de force intérieure pour bloquer en eux-mêmes les mécanismes de la peur qui agissent maintenant, mécanismes de la paresse qui agissent maintenant, et mécanismes de l'espoir ou de l'espérance qui agissent maintenant. Parce que, c'est, je dirais, un cas pur où on voit de quoi il s'agit, parce que les chaînes extérieures totalitaire étant plus ou moins tombé ou neutralisé ou paralysé, bloqué. Alors maintenant, c'est allons. Maintenant, je répéterai le mot de Montaigne qui paraphrasait le dicton latin. Il disait en face de la mort, on parle français. Ou exit persona manet res. Qu'est-ce que tu as là, dans tes entrailles, à ce moment-là, à ce moment privilégié, minute de vérité, disons. Là, quand tu mets réellement, ça parle. Alors ça parle maintenant. Et on constate que les gens pour lesquels est venu le moment ont perdu l'usage de leurs membres. Si on fait une métaphore de membres physiques pour courage, pour l'intelligence, etc., etc., ils ont perdu l'usage. C'était défonctionné. Alors, n'ayant pas les muscles, et la pensée doit en avoir, la vie sociale doit en avoir des muscles. La culture de la vie sociale, c'est une culture qui exige que tu puisses, étant fort, pratiquer la vie. Pas seulement rester toujours dans les limbes du non achevé, non réalisé, des choses, de quelque chose qui n'est pas arrivé à sa forme, à son eidos. Et alors la pensée, ne trouvant pas le mot, rejoint le néant, le sentiment qui n'a pas trouvé son réalité ou son objet retrouve, rejoint le néant. Alors nous sommes devant la bouche béante du néant.
Et là on est au bord du néant pour
vous. Oui, oui.
Au bord ou à l'intérieur.
Oui, si, si. Alors c'est... C'est presque le jeu de dés. Si il n'y a pas une quantité suffisante des gens, des individus, qui, à leur place, au point où qu'ils occupent, ne se dressent, ne reprend sur eux les fonctions dont ils ont oublié ou perdu l'usage, s'ils ne font pas un effort sur eux-mêmes.
Vous sentez venir ça ?
Non. Non. Je veux dire que vous savez que cet effort sur soi-même se joue autour de la réalité, d'un rapport avec la réalité, et réalité dans ce cas n'est pas un mot, c'est un terme qui a une définition, c'est un concept. C'est pas la réalité en charge ordinaire, comme on parle dans le, comme on dit dans le langage parlé. C'est, je dirais ainsi que, il y a deux choses qui ont joué, dont on hérite maintenant dans la situation que je définirais post-totalitaire. Là où on se retrouve, ayant la possibilité formelle de se réaliser, de se reprendre, d'accomplir cet effort dont je parlais, de se donner la vie, parce qu'avant on ne vivait pas, c'était pas de la vie, c'était l'existence de l'autre tombe, l'existence des images sans corps. Les contraintes extérieures du totalitarisme sont tombées, ou paralysé plutôt, et tu peux. Mais voilà, tu es l'héritier d'un certain rapport avec la réalité, qui est le rapport d'une certaine idéalité maladive. Je peux dire ainsi. Le système totalitaire est le système qui se réalise, et c'est fondamental pour ce système, se réalise par et à travers les fictions qui remplacent la réalité et devient source de la vie pour les gens qui pratiquent ou partagent ces fictions. Quand si la fiction devient une source d'une certaine forme de vie, qui n'est pas vie, même quand même vie, alors la fiction n'est pas divisible dans le sens comme on divise l'atome. Vous ne pouvez pas briser de front l'illusion de ce genre ou une fiction de ce genre. C'est la loi des pathos, vous savez, parce que une fiction sert à la vie, c'est une ressource de la vie matérielle pour toi. On se nourrit, etc., etc., en échangeant de signes fictifs dont plus ou moins on connaît le sens quasi réel, non figuré, mais on continue à ne jamais dire le sens vrai en disant toujours les signes obliques.
La fiction s'effondre en ce moment.
Comment ?
La fiction, elle s'effondre.
Non, ça continue très bien parce que à la force de se comprendre. Vous savez, le monde des fictions est la fiction du pouvoir qui n'existe pas, n'est jamais devant toi. C'est le pouvoir qui gère par des personnes interposées, je dirais. C'est je comme un citoyen soviétique, comme mes amis, beaucoup de gens, n'ont jamais eu à combattre le pouvoir parce qu'ils ont eu affaire toujours avec le voisin. Oui, il y a une connivence, la compréhensivité, si on puisse dire ainsi, qui nous permet de vivre. On triche, on vole, on se comprend. Il a des enfants. Alors, vous savez, la pression s'exerce pas le pouvoir. Il n'est jamais, c'est pas une feu chez nous. Le pouvoir soviétique, au totalitaire, il faut comprendre ça définitivement, n'est pas un phénomène politique. C'est toute autre chose. C'est une certaine forme de vie, de quotidiennité. Là, il n'est jamais pour lui donner un coin, un coup de poing. Il n'est jamais là. C'est toujours ton voisin qui est pauvre comme toi. Il fait ce qu'il fait parce qu'il doit vivre. Il a sa famille, ses enfants, etc. Et tu le comprends.
Mais quand même.
L'affection tombe ou tombe pas, non?
Non, mais d'abord, il y a des gens qui n'ont pas réussi à vivre dans ce rapport au quotidien. Il y a des gens qui sont allés dans les camps. Il y a des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui ont été dans des prisons. Il y a des gens qui ont été torturés. Donc il n'est pas si doux que ça, le pouvoir totalitaire.
Non, je sais ça. Non, je dirais ici, on nous tue dans les bras. Dans les bras de la compréhension, dans les bras de l'humanité, de la nôtre, qui est, je dirais qu'il y a pauvre corps qui se réchauffe l'un par l'autre, c'est trottant, j'ai mal choisi le mot, c'est trottant l'un à l'autre, au lieu d'inventer le chauffage central. Et ces magmas de chaleur compréhensive, c'est cela qui nous tue, nous assassine, parce qu'il y a en notre face de ce Janus qui est le sang. Et on peut définir cette face autre du Janus, ainsi que bon, ce sont les fictions, les vampires, les zombies, dont la condition de vie est de se nourrir du sang. Ils se recyclent au sang. C'est la seule raison du la vraie raison de terreur de masse qu'on peut pas, on n'arrivera jamais à expliquer par la rationalité étatique, l'État est toujours violent, on peut toujours, mais écoutez, la chiffre des victimes, l'atrocité de leur souffrance, on n'aura jamais ça par démarche continue de l'explication qui partirait de la nécessité étatique, ce qui est le clan classique de la torture, de l'assassinat, etc., etc. Jamais, si on n'ajoute pas cette donnée, comme il y a le terme qui avait de onirique, cette donnée onirique de l'autre tombe de la vie dans les conditions totalitaires, où les fictions déambulent en condition de se nourrir du sang. Voilà, est-ce que c'est une explication?
Oui, reste que pourquoi ça casse et comment ça casse si ça casse aujourd'hui?
Alors, je parlais, il y a l'idéalité maladive. Il y a le face du signe, d'un côté, il y a le face du signe, mensonger, etc., etc., mais j'expliquais dans quel sens c'est le mensonge. De l'autre côté, il y a toujours le refulé humain, notre humanité, qui a trouvé son refuge dans ce que j'appellerais l'idéalité abstraite, désir abstrait de justice, que je dirais que cela, c'est une idéalité comme réchauffée, c'est pas une passion parce que c'est l'intelligence ou la mentalité, mais quand même c'est, si on réchaufferait le niveau réflexif qui normalement devrait être de la pensée, devrait être froid, qui est toujours hors de réalité. Alors, je veux dire deux choses pratiquement. Que, bon, l'homme, le monde du cinéma est hors de la réalité, et on gère la réalité, justement, en tant que cette réalité se fait signe d'elle-même. Alors, elle est gérée. Tes états intérieurs n'importent pas. Moi, je peux penser n'importe quoi, mais je fais un signe que je pense cela qui est, dont on a déjà le signe dans le monde des signes. Ça suffit pour que le mécanisme social se mette en marche et se continue à fonctionner. De l'autre, il n'y a pas de réalité dedans. C'est l'absence de la réalité qui est le totalitarisme.
Ça, c'est la
réalité n'existe pas.
Oui, ça c'est l'état de choses d'avant.
Oui. Mais on a une réaction contre cela, qui est aussi sans rapport avec la réalité. On a perdu ce rapport, parce que le rapport avec la réalité, c'est un art, un organe développé, musclé, ce rapport continu, que déjà avant toi, quelqu'un a pratiqué ce rapport, avec lui, avant lui, quelqu'un d'autre. Et c'est une continuité de l'être, à reprendre, d'accord, par mon effort, mais il y a des gens qui ont pensé avant moi, qui ont agi avant moi. Il y a comme le feu de l'être qui se transmet demain dans les autres. Et voilà. Ici, on ne cherche faute à l'illusion totalitaire. On contrepose idéalité abstraite et réchauffée comme état. On est maximaliste, on est radical, mais toujours à côté de la réalité. Comment faire rentrer ces forces vives? Ce sont les seules forces vives chez nous. Ce sont les radicaux, les maximalistes. Et c'est surtout que l'avantage de la vie soviétique, il y a, pour le moment, il n'y a pas de violence dans les courants minoritaires politiques. C'est du gagner. C'est beaucoup de choses. Parce qu'il y a des violences et ailleurs, dans la vie coutumière, dans la vie quotidienne de la société. C'est aussi un phénomène très, très, très intéressant. Mais, passant d'une conscience qui a déclaré les lois de la vie.
Pour que Nicolas, qui est un esprit simple, comprenne tout immédiatement. Comment peut-on espérer que des gens vivant dans ce troisième état en sortent? On a l'impression qu'ils en sortent quand on lit les journaux, quand on voit ce qui se raconte ici, on se dit ils en sortent. C'est une illusion, c'est la croyance à une transmutation, ou c'est une vision optimiste et impatiente de ce qui peut se passer?
Alors, on peut constater qu'il y a le malaise, qui est le malaise de comment revenir à la vie après avoir trop vécu dans la non-vie. Et ça grince. Alors, on peut sortir autour du rapport avec la réalité. Mais on avait la conscience où on ne reconnaissait pas que la réalité est des lois propres. On veut combattre cela par l'idéalité qui aussi ne reconnaît pas les lois de la réalité. Je dirais que cette idéalité est dangereuse parce que c'est comme un déchet en sous-produit de la chose qui nous a mené dans cet abîme. Et la chose est, je définirais ainsi, c'est le fanatisme intellectuel qui était déjà ressenti comme un danger par Kant. Et je peux dire que la philosophie de Kant, toute entière, est une construction d'un appareil de concepts capable de neutraliser, de bloquer, de masquer, etc., etc., freiner le fanatisme intellectuel.
Vous sentez le fanatisme intellectuel pris comme une solution et le contrepoids de l'ancien système totalitaire dans la tête des gens qui se révoltent et se réveillent. Ils vont vers le fanatisme en ce moment.
Voilà, je parle... c'est un peu plus comme c'est, oui, c'est ça, mais un peu dans une phrase plus, disons, nuancée. Je dis que cet fanatisme qu'on a, qui nous a projetés dans l'abîme, surtout par son côté qui est de croire que l'apport de l'homme avec la société, disons avec la société juste, etc., qu'il réaliserait un idéal, est le rapport constructif. C'est-à-dire qu'on peut construire la société, la vie, ce qui est absolument faux. Mais c'est une illusion bien européenne, bien massive, ayant ses origines dans l'européanité même. Mais d'accord, c'est exacerbé, et seulement quand c'est exacerbé, ça donne le résultat qui s'appelle totalitarisme, qui crée, nous projette dans un monde de signes, du mensonge systématisé, etc., des apparences systématisées. Mais l'autre versant de la reprise humaine contre l'homme de signes est aussi cette même idéalité. C'est pour cela que je dis un déchet, un sous-produit de la rationalité messianique qui nous a déjà donné le résultat contre lequel nous luttons, mais toujours dans les termes de cette même idéalité, qui prend un rapport fétichiste avec la réalité, presque magique. Là, un désir suffit pour être accompli. Une pensée suffit pour être la pensée, pour se réaliser comme une forme réelle de la vie. Mais écoutez, ça, c'est seulement l'expression maladive de quelques essences dans l'homme détruites. Et je dirais, définirais ainsi que on vit maintenant l'impasse de l'intelligence et du bon sens. La seule voie qui pourrait nous mener en dehors, nous ouvrir la porte de la réalité, de notre vie, c'est la voie de Cilia, du goût de la vie. Ce qui est étrange, mais c'est une qualité très intéressante, et très complexe et très importante.
Oui. Alors, bon, alors là, je fais le journaliste une seconde. On prend Gorbatchev en Russie, Václav Havel et le Forum en Tchécoslovaquie, Lech Wałęsa, Walesa, comme on dit en France, en Pologne. Les gens qui en Allemagne de l'Est sont en train d'être à la place de ceux qui étaient au pouvoir. Est-ce que tous ces gens, les nationalistes géorgiens, les nationalistes baltes, est-ce que tous ces gens, où sont-ils dans ce schéma que vous décrivez ?
Ils ont une place. Et je parlais déjà de cela au colloque qu'on a eu récemment, qui se faisait au Sénat à Paris, qui était le colloque sur la Perestroïka. Et là, je posais la question que j'appelle la question russe, dans le sens classique de ce mot « question », comme on disait auparavant, la question balkanique, par exemple. C'est-à-dire, question, c'est il y a un lieu où les gens s'agitent, ils ont des problèmes tellement enchevêtrés les uns avec les autres, qu'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, et par cela même, ils posent un problème pour le reste du monde. Oui, c'est la question balkanique. Dans ce même sens, j'emploie l'expression « question russe » qui sera une espèce de réponse à votre demande. On peut dire ainsi, si dans l'Allemagne de l'Est, les contraintes extérieures du système tombent, on peut être plus ou moins sûr que les Allemands, par ce qui est déposé dans leur génétique, dans leur tradition, dans leur mémoire historique, etc., dans leur capacité culturelle, sont capables de se construire une vie. De même pour les Hongrois, etc. Et quand on pose la même question de cette façon-là, si les contraintes extérieures tombées sont capables ou non, les Russes, se doter d'une vie, là, la question, on n'est pas sûr.
Et les Géorgiens ?
Ah oui, voilà. Les Géorgiens, c'est beaucoup plus sûr. Et la différence est justement sur cette ligne, le clivage entre le peuple, qui est le clivage. On a le goût pour la vie, on aime la vie, ou on n'a pas de goût pour la vie. Et malaise est si profond et si grand qu'on a de la peine d'être vivant. Moi, je constate par mon expérience que cet goût pour la vie est entamé dans des millions de gens qui habitent la Russie. Prenant le mot Russie dans le sens culturel, dans le sens politique, comme un phénomène culturo-politique. Déjà, on a eu ce qu'on a eu, la révolution et la guerre civile, dont une des mécanismes importantes était quelques relations avec la mort et avec la vie. La relation où on avait Unbehagen, comme disent les Allemands, Unbehagen, malaise de vivre, et on était ensorcelé par la mort. Vous savez, il y a des épiphanies. C'est-à-dire, bon, de temps en temps, on arrive à une pensée par des moyens réflexifs, par l'analyse, et comme résultat d'analyse ou de la réflexion, voilà la pensée. Une expression qui est la pensée. Mais de temps en temps, il y a des expressions qui ne sont pas produites de l'analyse ni de la réflexion, comme ça, comme une expression non méditée, mais qui sont, étant exprimées, sont la vérité sur elles-mêmes, dans leur propre forme matérielle d'expression, immédiate. C'est, on appelle ça épiphanie, pourrait dire. Il y a une épiphanie de la révolution d'octobre et de ce qu'on a fait après. Cette épiphanie, on pouvait l'avoir en 24, lors de funérailles de Lénine, comme un slogan qui était porté par la foule, un des slogans, et sur ce slogan, plancard, est écrit la phrase suivante. Le tombeau de Lénine équivaut le berceau de l'humanité. L'état réel des âmes, des millions d'âmes qui, ayant perdu le goût de la vie, ensorcelés par la mort, commençaient au réveil d'une vie après la mort. C'est justement cette vie dans l'autre tombe dont je parlais quand j'essayais de définir, entre guillemets, la société totalitaire. Et ce que je constate maintenant, c'est dans les masses, c'est cela qui se reflète au niveau des choses les plus simples. Par exemple, il y a tu as besoin d'un objet qui est ici, à 100 pas de toi. Il y a quelqu'un qui demande cet objet. Il y a toi qui pourrais avoir du profit en donnant cet objet par l'intermédiaire de toi-même à cet autre qui en a besoin. Mais non, ça ne pas. Vous savez que pendant des années, l'Union soviétique et l'économie, le système économique est tel que personne n'a produit pour autre. Simplement, personne n'a jamais produit pour son voisin ou pour soi. Tout ce qu'on produisait devait passer par Moscou, par le centre, pour venir être redistribué après. Vous savez, c'est la vie, c'est l'épaisseur réelle de la vie, c'est pas seulement le concept économique abstrait. C'est pour vous imaginer, vous êtes là devant moi je suis là. Et vous imaginez que si notre échange commerce économique des forces vitales, cristallisées dans des produits, etc., se fasse ainsi, que c'est toujours, j'ai produit pour un point omniscient, omniprésent, omnidistributeur, et j'achemine le produit, la marchandise qui vous avez besoin là, et après ça se redistribue au se redistribue pas, ça peut se perdre dans la route. Mais c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Alors on a déjà pris l'habitude de cette forme qui est non-vie de la vie. Et il y a, vous savez, par exemple, les Georgiens ont une certaine qualité, d'accord, étant un peuple aussi soviétisé que presque que les autres, quand même, il y a la frénésie, je dirais, qui est réellement l'expression d'un rapport avec la vie qui n'est pas miné, n'est pas rompu dans son fondement avec la vie. La frénésie d'avoir à un mètre minimum autour de soi un milieu physique en proportion, en rapport avec toi, tel que tu te puisses reconnaître comme digne. Avec ça, avec les objets, avec le fourchette, un couteau, un produit, etc., etc. C'est ce que j'appelle le goût de vie, ou pour la vie, ce qui est une force motrice de l'histoire. Tant que je vous citais l'épiphanie, qui est la face invertie négative de du goût de vie, c'est-à-dire l'absence de goût de vie, quand on rêve de naître dans la mort. La mort de Lénine, ou le tombeau de Lénine, est le berceau de l'humanité.
Est-ce que vous êtes d'un pessimisme total sur ce qui va arriver?
Bon, une fois, j'ai répondu à cette question qui se pose toujours devant moi et posée par les autres qui m'entendent. J'ai répondu en disant que peut-être c'est l'obligation de l'intelligence être pessimiste dans ce sens-là. Mais il y a un ajout à cela qui j'ai trouvé par exemple dans une phrase d'Antonio Gramsci. Il a combiné dans une seule expression deux choses, on dirait contradictoires, mais réellement qui peuvent être en harmonie, une harmonie productive, motrice. Il a dit le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Bon, c'est par la volonté qu'on est présent dans le monde. On est là, les dés sont jetés, alors on parle en français. Exit persona, manetresse. C'est l'action. On ne peut pas agir sans l'optimisme. C'est l'optimisme de la volonté qui peut très bien être combiné avec la lucidité de l'intelligence qui te donne la réalité. Mais c'est ça la réalité. Alors l'existence de gens actifs serait comme un appel aux gens qui sont dans la réalité. Écoutez, éveillez-vous, regardez ce que vous êtes. Si vous ne vous regardez pas vous-même, si vous ne faites pas un effort sur vous-même, mais pour faire un effort, il faut comprendre. Il faut comprendre, par exemple, que c'est le goût de la vie qu'on a perdu. Si vous ne faites pas un effort, oh, c'est perdu. Ça ne viendra pas à l'extérieur. Parce que, justement, pendant le totalitarisme, et ne réalisant pas la vie, où le côté chimique, alchimique de la vie était détruit, on attendait toujours quelqu'un d'autre qui te donnerait quelque chose, qui résoudra pour toi ton problème, qui t'aidera, etc. Et ça, on toujours cherchait l'ennemi ailleurs, à l'extérieur. C'est un mécanisme terrible. C'est ce mécanisme-là qui doit être détruit. On est infantile et on est comme toujours dans les mains de l'armée du salut. Et vous imaginez quel résultat ça donne. Si on ajoute à cela cette continuation du messianisme rationaliste au messianisme des Lumières, qui a perdu son chemin et aller au-delà du sens réel, et le sens réel de lumière, qui est supposer toujours un point bienveillant, intelligent et omniprésent et tout puissant qui, aimant l'homme, bénévolement, aurait distribué tout. Mais, par ces paroles, je vous donne aussi la structure intérieure de l'économie dite soviétique. Parce que c'est pas si que c'était, il avait une économie réelle, pas, après il est apparu une économie au noir ou l'économie de l'ombre. C'est le contraire que ça fait. D'avance existait l'économie de l'ombre, qui s'est dotée de deuxième réalité, entre guillemets, qui est la réalité de signes et de compréhension dont je parlais, coagulation des compréhensions mutuelles, et troisièmement existe la réalité. C'est, je rappelle, l'économie de l'ombre, distributive et mécanique, qui était le dessin du communisme, qui s'est réalisé et a donné les résultats, que je pourrais résumer dans une formule. Très simple. Chez nous, et on voit, il n'y a pas de sens de produire si on a déjà distribué. C'est la vie à crédit, l'économie à crédit. On construit toujours des schémas où on a distribué tous les éléments de produits. Le primo, il n'y a pas de sens de produire, c'est tout déjà des produits. Et secondo, c'est jamais la réalité, parce que vous savez que le composé du produit, contrairement à la théorie de Marx, ne préexiste pas au produit, ne le compose pas mécaniquement, il se détermine comme élément ou composé du produit quand le produit entre dans l'existence. Bon, par exemple, je peux pas vous sortir l'idiotie sur la super value qui a
plus value.
Comment?
La plus value.
La plus value, oui. Plus value qui est une des évidences des transparences qui fausse l'esprit humain. Il paraît évident que si on continue le travail au-delà d'un certain point, on se produit ce qui est plus value, non? Mais écoutez, qu'est-ce que ça? Où ces moments-là? C'est absolument faux. C'est pas ainsi que la production est structurée. C'est une des fausses évidences de transparence pour un esprit qui se prétendait omniscient.
On revient aujourd'hui. Est-ce que le philosophe que vous êtes a des chances de faire entendre ce qu'il a à dire de la réalité à ceux qui sont en train de se révolter contre le totalitaire?
Oui, on n'agit que si on voit la chance. Il y a évidemment aussi une de ces chances et le fait que je parle avec vous. Parce que parler avec vous, si on parle la philosophie, c'est comme parler chez moi à Tbilissi avec les gens d'autres métiers, mais qui sont des hommes. Alors, avec les hommes, il faut tenir le langage d'homme. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours la chance de faire de la philosophie, dans le sens qu'en faisant cela, faire passer quelque chose. Aussi, par exemple, créer simplement des liens entre les gens. Soit locaux, ces liens. Mais vous savez, la globalité de la société se compose des lieux individuels. C'est la somme, l'intégrale des points différenciés. Et c'est par l'individuel qu'on va aussi dans l'analyse vers le global, vers le social, vers la société en grand.
Je voulais savoir s'il y avait quand même au fond de cette analyse que vous faisiez une bribe d'espoir qui vous fasse agir au lieu de vous retirer et d'aller penser dans un coin.
Donc vous savez, on ne pense jamais dans un coin, c'est pas possible. Si il apparaît qu'on, il paraît qu'on pense dans un coin, alors ce coin est le monde. Et le monde, je répète que l'ambition extrême, supérieure du créateur, soit ce créateur artiste, philosophe ou autre, est exister. Venir en existence. Je crois que si on est dans ce coin, parce que pour exister, on se retire tous, même n'ayant pas de retire physique, on se retire quand même. On se retire, et écoutez, on se retrouve tous dans la même patrie. Que Proust disait, la patrie inconnue, dont on est citoyen. Proust disait, chaque artiste est citoyen d'une patrie inconnue. Ou un philosophe et autres, vous, je dirais pas journaliste, vous êtes disons, intermédiaire culturel qui fait rencontrer les choses. Oui, sans cela, sans, les choses ne se rencontreront pas. Alors, vous faites pareil, vous êtes là. Est-ce que vous êtes français à cette fonction? Non.